RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos, putain. Non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, il y a, sachez-le, en direct du football ce soir, il y a de la Serie A, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec Simone Rovera. Sachez que cet après-midi, l'AC Milan a battu Frosinone 2-0, le Napoli mène 2-0 face à l'Inter, il reste moins de 20 minutes à jouer, l'Atalanta mène toujours à Turin face à la Juve 1-0, très bon résultat pour l'instant pour l'Atalanta en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions. Et puis il y a également du rugby ce soir, 25e journée de Top 14, ça joue entre Toulon et Clermont, il n'y a pas d'enjeu, Flo Germain.
Et c'est la mi-temps surtout, 17-11 voilà. Pour les Toulonnais, surtout. Deux essais pour le RCT et un pour les Clermontois. Là, c'est la mi-temps, il y a un petit tour d'honneur, je précise, des jeunes espoirs de Toulon qui ont été sacrés champions de France, parce que un peu comme à l'OM, Toulon veut miser sur la jeunesse et l'avenir. 17-11 à la mi-temps, donc entre Toulon et Clermont.
Il y a également du hockey sur glace, tour préliminaire du championnat du monde, Morgan Mori, France-Finlande.
Dernier tiers-temps, la France est menée 2-0 par les Finlandais, situation à 4 contre 4 sur la glace avec un débordement de Damien Fleury qui passe derrière la cage, ça ne donne rien pour l'instant pour les Bleus. Finlande 2, France 0, encore 11 minutes dans ce match.
Et hier soir, victoire de l'OL face à Caen, 4-0, l'OL qui terminera 3ème de Ligue 1, ça c'est acquis. À l'issue de cette victoire, Jean-Michel Aulas a confirmé l'arrivée du duo Juninho-Silvinho pour la saison prochaine.
Juninho va nous rejoindre, il va arriver incessamment. Il est d'accord, il va venir comme directeur sportif avec la quasi-totalité des responsabilités sportives, ce qui va me faire un petit peu de bien. Il faut le concéder. Et puis donc il vient avec Silvio, avec Silvinho. Eh bien on va l'accueillir à bras ouverts. C'est Juninho qui l'a choisi. Alors j'ai entendu qu'effectivement il n'avait pas une longue expérience en tant qu'entraîneur en premier, mais bon, sans vouloir comparer Silvinho à Zidane, on a vu que de très grands joueurs pouvaient très vite s'inscrire dans des projets ambitieux. On a un projet ambitieux.
Et on va écouter l'avis de Daniel Riolo, donc qui concerne ce duo auquel il a envie de croire. Qui dit avait tranché des jingles, bien sûr.
Ben, je ne savais pas.
Pas comme ça.
Bon, le max que j'ai essayé, c'est le streaming, ça marche jamais. Ouais, je lance le match et les images de cul qui arrivent.
Bonjour, je m'appelle Rocco Siffred.
Très bon, bravo Quentin Barber, très très bon. T'as envie de croire à ce duo, toi, Juninho Silvinho qui arrive du côté de l'OL, Daniel?
Oui, effectivement. Tout pour l'instant semble se passer un petit peu comme je l'espérais à Lyon, parce que ça faisait pas mal de temps maintenant que je demandais à Jean-Michel Aulas d'être plus lucide, de prendre un petit peu de recul, d'amener du sang frais, de tourner une page à Lyon, de faire autre chose. Il a réussi au-delà de ce que je pensais, parce que je lui disais sors un petit peu du microcosme lyonnais, ouvre un petit peu les portes. Et c'est encore mieux ce qu'il a fait, parce qu'il a ouvert les portes en prenant le meilleur joueur de l'histoire du club. C'est formidable, qui n'était plus au club depuis longtemps, qui a une culture différente parce qu'il est brésilien, parce que footballistiquement il est pas lyonnais, et il vient donc avec un brésilien. Donc là, pour le coup, c'est totalement nouveau pour l'OL. Là, ça sort le club de sa culture traditionnelle. C'est ce que je voulais voir à Lyon depuis longtemps, et j'en suis ravi. Alors,
c'est nouveau, ouais, pour les deux aussi d'ailleurs.
Ouais.
Hein.
Alors. Oui, c'est vrai. À un moment, je disais, ouais, c'est bien pour l'OL s'ils prennent un grand nom, un mec connu internationalement, parce que ça donnera une autre image à l'OL. Et à ce titre, bah, Silvinho, on peut pas dire. Effectivement, on se souvient de lui joueur, mais c'est pas un mec connu. Donc, de ce côté-là, le grand nom n'est pas venu. Mais ça m'embête pas, et j'ai même pas envie de comprendre les gens qui sont sceptiques dans les médias, parmi nos amis, consultants, experts, ou même dans le public. Je veux dire, ce métier d'entraîneur est tellement particulier. On a tout vu. On a vu des anciens joueurs qui sont arrivés très vite Sur un banc, Deschamps à Monaco, première année pour se faire les dents, immédiatement derrière, réussite. Blanc, pareil, est arrivé comme ça, à un moment, il faut bien y aller, quoi. Il a parlé d'une comparaison avec Zidane. Bah oui, pourquoi pas. Bon, Zidane a passé ses diplômes, a été adjoint d'Ancelotti. Bon, ben, Silvinho, il a été adjoint d'un entraîneur et de la Seleção, qui est quand même, en matière de football, une référence. Il faut bien se lancer, il faut bien commencer. Si dès la première année il cartonne, il a des super résultats, bah, tant mieux pour lui. Mais si jamais il faut à ce duo juste l'année prochaine être sur le podium, parce que ce sera le minimum requis, et lui donner du temps pour qu'il s'installe et qu'on sente qu'il y a quelque chose, et bah, ok, très bien. On verra bien s'il faut du temps, on verra bien si ça marche tout de suite. Parfois ça marche bien, d'autres moins bien. Parfois il faut une saison pour apprendre. Dans ce métier d'entraîneur, il y a les anciens joueurs, il y a les non-anciens joueurs, et là, de la même façon, les réussites des uns des autres sont très partagées. On a vu des joueurs qui étaient des immenses stars sur le terrain et qui n'ont pas réussi comme entraîneur, et l'inverse est vrai aussi. Olas laisse les clés à Juninho. Ça, c'était un autre des bonnes choses, à mon sens, c'était qu'il prenne un petit peu de recul. Il le fait.
Tu croyais pas, Daniel?
Il le laisse. Ah si, justement, c'est ce que je disais, moi, c'est ce que je voulais croire.
Ah
absolument.
Non, tu croyais pas. Je me rappelle, je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, ou justement, je te dis que moi j'y crois beaucoup et tu n'y croyais pas.
De quoi? Qu'il prenne du recul?
Ah oui, qu'il allait prendre du recul.
Je souhaitais de.
Oui, tu souhaitais, mais tu ne pensais pas qu'il le ferait.
Si, les mecs, j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'y est pas, on saura pas, les gars, j'ai envie de vous dire. Il peut très bien faire des effets d'annonce. Oui, mais on sait jamais. Attendons de voir.
Ça fait longtemps que je réclame ce recul. Oui, c'est très bien. Preuve qu'il l'a laissé et qu'il prend ce recul, c'est qu'il l'a laissé choisir l'entraîneur, parce que l'habitude de choix, Lyon, on voit bien qu'ils n'ont jamais fait ça. D'ailleurs, Silvinho, il tombe de la lune pour la culture lyonnaise. Donc c'est bien la preuve qu'il a laissé Juninho choisir. Les deux vont bosser ensemble. Directeur sportif, entraîneur, oui, d'accord. En plus, ils vont garder certains adjoints. Donc j'espère qu'il y a une tradition qui veut qu'on s'abonne un peu la planche. Mais là, il y a Juninho qui est quand même en gardien, en gardien des clés, en gardien du temple lyonnais. Donc si Silvinho avait été seul,
non. Puis t'as des gens dans le staff qui sont aussi très amis avec enfin qui sont du même côté que Juninho, qui l'ont aimé en tant que joueur dans le vestiaire et qui voilà.
Exactement. Donc voilà, de ce côté-là, c'est cohérent. Donc banco, vraiment, je trouve que c'est super. Je suis très heureux de la décision d'Olas. On va voir. Mais je vois pas pourquoi il faut être sceptique a priori. J'entends trop de choses négatives. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? Qu'il prenne un entraîneur de Ligue 1, qu'il cherche un... Peut-être il avait pas le blé pour attirer un Mourinho ou un Conte. Je pense que c'est trop cher pour l'OL.
Ça aurait été mieux de toute manière.
En plus,
l'avenir nous le dira.
En plus, voilà. Je pense qu'il faut être a priori bienveillant avec cette décision, et je suis très pressé que ça commence pour voir si l'équipe a tout de suite un style, pour voir si Silvinho d'abord, parce qu'on le connaît pas, est-ce qu'il a lui-même, bon, s'il bosse avec Teach, c'est quand même qu'a priori
c'était moyen. On dirait plus Leonardo Jardim qu'un Brésilien, je te le cache pas, t'as plus accent de Madère que du Brésil, mais vas-y,
c'est déjà pas mal.
Ouais.
A priori c'est plus un football offensif que s'il avait été l'adjoint de Dunga par exemple. Moi, je trouve que les signes sont positifs à l'OL, j'en suis ravi.
Alors, en tout cas, hier, on avait lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After, et plus de 70% des votants, ils avaient été très nombreux, étaient emballés, vraiment enthousiasmés à l'annonce de l'arrivée de Silvinho et Juninho.
Ça peut susciter, comme le dit Daniel, beaucoup de curiosité et d'envie de voir comment ça va se passer. Après, ceux qui sont sceptiques tout de suite et dire tout de suite ça ne marchera pas, ou alors ça va marcher, ça va être génial. Bravo, parce que sur quoi il s'appuie pour dire ça, je sais pas. Après, ce qu'on peut dire, et c'est ça résume un peu ce que Daniel vient de faire comme avis tranché, c'est que c'est quelque chose de cohérent entre ceux qui vont rester là. Et tu te rappelles, Daniel, je te parlais des adjoints qu'allaient sûrement rester là, peu importe, et qu'on allait sûrement en rajouter un petit peu, mais pas enlever ceux qui étaient présents. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. On ajoute des forces. Un qui connaît par cœur le club et l'environnement lyonnais et qui va avoir un réel pouvoir, c'est Juninho. Un coach que lui a choisi. On reste dans le cohérent. Le directeur sportif choisit le coach.
Ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de clubs de Ligue 1 cette année.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce dont on pouvait pouvait douter peut-être avec Jean-Michel Aulas, mais là, force est de constater qu'il, on parlait des clés du camion, Daniel, tiens, rappelle-toi, laisser les clés du camion. Là, il les laisse et c'est plutôt bien.
Quand on était chez Tim Dugas, c'est Dugas qui croyait pas qu'il allait laisser.
Non, toi, tu souhaitais ça aussi, mais tu pensais qu'il ne le ferait pas. Si, je me rappelle, c'était lundi dernier, je crois.
Mais
toujours est-il que moi, je pense même que Jean-Michel Aulas, sera un plus efficace et deux qui va prendre beaucoup plus de plaisir comme ça. Je suis persuadé qu'il prendra beaucoup plus de plaisir à s'occuper
en prenant
de son
du
club,
recul,
en prenant du recul, que d'être trop impliqué comme il l'était ces dernières années.
En tout cas, et je pense qu'on sera nombreux à être d'accord là-dessus aussi. C'est vrai que l'une des critiques finalement les plus débiles qu'on a pu entendre ces derniers jours, c'est notamment sur Sylvinho. Comment peut-on parler du style d'un entraîneur qui a jamais entraîné de sa vie? C'est quand même lunaire. Pour Juninho.
On peut être curieux.
Juninho n'a jamais occupé ce poste-là. Alors, il est diplômé, c'est ce qu'a expliqué hier aussi Jean-Michel Aulas en zone mixte. Il a son diplôme de manager, il va exercer ce poste-là au sein de l'OL. C'est vrai que c'est très réglementé aussi, les histoires des diplômes dans les clubs également. Mais voilà. En tout cas, supporter de l'OL, on vous attend au 32-16 pour commenter l'arrivée de cette doublette Juninho-Sylvinho. On va accueillir Charles, supporter lyonnais, qui nous a appelé justement au 32-16. Salut Charles.
Bonjour à tous.
Bonsoir Charles.
Alors Charles, est-ce que tu fais partie des enthousiasmés finalement par cette annonce de l'arrivée du duo Juninho-Sylvinho?
Oui, moi je fais partie de ceux qui sont très contents de la doublette pour plusieurs choses. Bon, après comme supporter lyonnais, forcément Juninho qui revient à Lyon, c'est comme si Drogba revenait à l'OM. Donc on est vraiment contents. En plus, on voit que Aulas continue à faire les choses bien pour le club. Il prépare sa sortie en fait. Il avait déjà annoncé il y a quelque temps qu'il commençait à se faire vieux et que sous 5-6 ans, il fallait qu'il parte. Et on voit qu'il a pas envie de le subir son départ. Donc il le prépare avec l'arrivée de Juninho qui reprend la partie sportive. Donc ça c'est une bonne chose. Il essaie de faire en sorte que le club continue bien après lui. Et puis le changement de stratégie, le fait d'inventer quelque chose avec la venue de Sylvinho. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On essaye, on prend des, ça prend des risques, c'est essayer de faire quelque chose pour
c'est audacieux.
Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc moi ça me plaît. Ça marchera peut-être pas. Peut-être que ça marchera bien. Mais au moins, on pourra pas reprocher d'essayer.
Ou ce qu'il faut peut-être dire aussi, et peut-être que ça marchera bien ou pas, mais si ça marche pas bien tout de suite, faudra peut-être laisser du temps, parce qu'il y a plein de choses qui vont être nouvelles dans le fonctionnement de ce club. Du coup, ça va pas tout de suite peut-être tourner comme tout le monde l'entend, et il faudra laisser du temps à ces deux personnes-là.
Ça sera important, ça aussi. Ouais, c'est clair, mais au moins, il y aura forcément du temps, parce que c'est Juninho qui va prendre le truc, donc. Tous les supporters lyonnais vont laisser du temps à Juninho. Juninho, c'est en plus ce qui est bien, c'est que lui, il va rapporter, on va dire, à tout le groupe et à toute cette équipe, c'est les années qu'il gagne. Lui, c'est comment faut faire pour gagner. Il a gagné pendant 7 ans, donc il sait ce que c'est, il sait comment faut faire. Donc je pense que ce truc qu'on a pu un petit peu perdre à Lyon, cette rage de vaincre, l'envie de vraiment de d'écraser les autres équipes et notamment quand on était à la maison. Faut que ça revienne et je pense que c'est lui qui peut l'inculquer et Sylvinho aussi parce que Sylvinho mine de rien il a fait quand même pas mal d'années au Barça.
Ah bah quand t'as fréquenté des clubs comme ça et tout tu sais de quoi tu parles.
Rien qu'avec le Barça c'est deux Ligues des Champions, on le voit sur RMC Sport là, 3 championnats d'Espagne, une Coupe d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne et enfin, il est quand même, enfin on parle beaucoup du Barça,
même
il a fait Man City, il a fait Arsenal, il a fait que des grands clubs.
Il a été à l'intérieur
de machines. Et le Corinthians c'est énorme au Brésil.
Il a été à l'intérieur de machines importantes. C'est ce que c'est le foot de très haut niveau.
Et en même temps ça peut être un adjoint aussi. Ça peut ne pas suffire parfois.
Exactement.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est quand t'as ça dans ton bagage,
c'est toujours mieux.
Tu as vu quand même ce que c'était que le foot de très haut niveau. Voilà.
Ouais, et puis il a essayé d'apprendre auprès de personnes qui savent entraîner. Il est adjoint à CSAO, il était adjoint au Corinthians aussi, je crois.
Il a fait. Alors, il a eu un premier. C'est marrant parce que le premier entraîneur dont il était l'entraîneur, le premier adjoint dont il était l'entraîneur principal, il s'appelait Mancini également. C'était à Cruzeiro, à Sport Recife, à Nautico. Il est passé au Corinthians. Après, il a été l'adjoint de Mancini, mais Roberto, cette fois-ci l'Italien, l'Inter Milan. Il a été l'adjoint de Tite et depuis avril dernier, il était le sélectionneur olympique. Alors, il n'a pas trop eu le temps, pas eu le temps du tout d'ailleurs, de mettre en place quoi que ce soit, puisqu'il a eu cette invitation qui a été officialisée d'ailleurs par la CBF, la fédération brésilienne, il y a quelques jours de cela. Et donc le lendemain, il était annoncé du côté de l'OL.
C'est un garçon qui a du vécu en tant que joueur, qui a du vécu en tant qu'adjoint, un vécu de vestiaire, enfin de staff plutôt depuis 5-6 ans maintenant. Donc c'est il débarque pas comme ça. Voilà.
Vous attendez à quoi en termes de jeu justement maintenant, même si on le connaît pas, Silvino. C'est quoi ton envie, toi, Charles?
Mon envie, c'est de retrouver une équipe qui soit régulière. Offensive, ça mine de rien. Je crois qu'on l'a pas trop perdu parce que Genesio prenait un jeu offensif. Il a toujours essayé de faire un jeu offensif. Et les entraîneurs, hormis Claude Puel, prenaient un jeu offensif. Donc ça, je pense qu'on va l'avoir. Mais c'est vraiment la régularité. Faut qu'on arrête de perdre des points contre Dijon et
Caen. Une sorte de volonté permanente, quoi, et sortir de l'idée que en Ligue 1 tu peux faire que 2 ou 3, que t'es une sorte de d'outsider permanent, et que clairement t'arrives, tu dis le championnat, je veux le gagner, si c'est pas possible c'est pas grave, la Ligue des Champions, je veux sortir des poules, je veux aller le plus loin possible, enfin voilà, je m'appelle Lyon, je suis un vrai club, on y va, quoi.
Faut qu'on soit dans une mentalité où on se dise que le jour où si le PSG fait des saisons comme ils ont commencé à faire, où ils sont à 2,75 points de moyenne.
Ouais, non, mais là, le PSG, ils ont lâché des titres cette année. Lyon n'a pas été là pour les ramasser. Lyon doit être là.
Voilà. Et donc faut tu veux pas être à on va dire là, quand on regarde cette année, ils sont à moins de 2 points de moyenne par match, c'est pas un niveau d'une équipe.
Voilà, Lyon doit être à 2 points de moyenne, et si ça suffit pas pour être devant le PSG, ben ça suffit pas, mais tu dois être au-dessus de 2 points de moyenne, et tu dois tout faire pour gagner quelque chose, quoi.
Est-ce que c'est pas un problème de joueur aussi? D'ailleurs, c'est pour ça que Julinho arrive également.
T'avais quoi de quoi faire bien sur des gros matchs? Qu'est-ce qui t'empêche de faire mieux sur beaucoup de petits matchs que l'OL a loupé? Rien, si ce n'est l'état d'esprit. Donc c'est pas une question de qualité. Honnêtement, il y avait de la. Il y a toujours de la qualité.
Non, mais attends. Moi, quand je parle de joueurs, je parle pas forcément de la qualité. L'état d'esprit, ça fait partie de ce qui est de la composante d'un joueur également. Ouais. Alors le coach est là pour gérer ça normalement, mais tu recrutes aussi un joueur selon ses caractéristiques psychologique, etc. Enfin, je vais apprendre ça, mais.
Eh ben, est-ce qu'un duo entraîneur avec une autorité au-dessus, Juninho, quand ça va mal se passer, ça va être l'autorité du dessus qui va venir taper un peu ou tirer les oreilles des joueurs. Ça sera peut-être un peu plus efficace qu'un entraîneur seul dans le vestiaire qui répète.
On l'écoute.
Il faut se battre tous les matchs.
Priorité au direct. Christophe Galtier, élu entraîneur de la saison, trophée UNFP.
Il faut les faire grandir. Il faudra les tenir quand ils déborderont. Il faudra les pousser quand ça ira pas trop bien. Mais j'ai pas eu besoin de beaucoup les pousser.
Ah, Christophe Galtier, ça a coupé. Entraîneur de Lille qui a été élu entraîneur de la saison au trophée UNFP. Je vous redonne d'ailleurs le palmarès pour l'instant de ces trophées UNFP. Kylian Mbappé élu meilleur espoir pour la 3e année de suite. Galtier meilleur entraîneur de la saison. Mike Maignan de Lille également meilleur gardien de la saison. Benzema meilleur français de l'étranger. Chez les filles, Marochan élu meilleure joueuse également pour la 3e année de suite. Meilleur espoir pour la 3e année de suite, c'est Katoto également la parisienne, hein, pour être très complet. Tu disais, Pierre, pardon.
Non, j'avais fini. Je disais juste que le duo avec un coach et une autorité au-dessus, un directeur sportif respecté parce qu'il a fait, etc., sera peut-être plus efficace pour aller tirer un peu les oreilles des joueurs parfois si ça se bouge pas qu'un Genesio tout seul qui, moi, je suis persuadé, l'a fait. Il a essayé de les bouger, mais à un moment donné, quand t'es tout seul dans le vestiaire tout le temps, est-ce que ça a son efficacité? Apparemment, pas tout le temps.
Toulon Clermont, 25e journée de Top 14. Essai, Flo Germain.
Oui, essai pour les Toulonnais. Le 3e essai pour les Rouges et 24-11 désormais en faveur des Varois. Ce 3e essai toulonnais est marqué par l'Argentin Facundo Issa après celui de Petersen et celui de Rhys Webb. Belle adresse au pied également d'Anthony Bello. Il y a eu un essai côté clermontois de Grosso. Donc 24 pour Toulon, 11 pour Montferrand, pour Clermont. Et un petit zoom sur Guilhem Guirado qui a cédé sa place il y a 5 bonnes minutes. Évidemment, stand innovation des 15 000 supporters ici à Mayol. Le capitaine du 15 de France qui a signé à Montpellier et qui vivait donc sa dernière. Il était très ému ici à Mayol. Donc Guirado applaudi évidemment par tout le peuple rouge et noir, comme on dit. 24-11 pour Toulon.
Merci à Charles d'avoir été avec nous, supporter de l'OL. On accueille Clément, autre supporter lyonnais, qui a fait le 32-16 et qui est en direct dans l'after avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Bonsoir Clément.
Salut à tous les gars.
Salut Clément.
Bon, à ta voix, je l'entends, toi aussi t'es emballé.
Ouais, je suis plutôt emballé. J'attends de voir, je reste quand même mesuré parce que j'attends de voir ce qui va se passer, surtout au niveau du mercato déjà. Mais je suis plutôt emballé par ce changement. On a besoin de changement. Bon, apparemment, Juninho, donc, aura quand même le, même si Stipinho est entraîneur, Juninho aura quand même, je pense, on va dire le, les clés du camion. C'est lui, je pense, qui va décider un petit peu de tout. Et alors après, j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble. Mais, voilà, Juninho, c'est quand même quelqu'un qui connaît le foot, qui connaît bien le football, qui a du caractère. Je pense qu'il va vraiment savoir tenir le, les joueurs. Il y a des joueurs qui vont, je pense, plus, se rapprocher, être proche de Juninho que pouvait l'être, qu'il pouvait être auprès de Bruno Genesio. Et donc ça peut être une bonne chose. Moi j'y croyais pas, parce que je dis bravo à Aulas, parce que Daniel avait dit Daniel, franchement bravo, parce que t'avais dit que tu croyais vraiment au fait qu'Aulas change un peu sa de stratégie. Et moi franchement je t'avoue j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que Aulas je connais.
Si t'écoutes l'After depuis longtemps, tu sais très bien que Charles Howell, je suis toujours nickel. Hein.
Mais ouais, mais
je te ferai écouter le podcast.
Je suis d'accord avec lui sur tout, mais là, Daniel, il prend le panneau et se plante.
Tu avais envie.
Et puis, je suis content de voir que t'avais raison, ouais. Et je suis content de voir que, bah, que Aulas, malgré tout, il est plutôt jeune, mais ça montre qu'on peut encore changer.
Exactement. Et ça montre qu'il écoute l'After, mais ça, on le savait depuis longtemps.
Mais, ouais, non, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, après, forcément, voilà, Silvinho et Juninho n'ont pas d'expérience. On va pas non plus, crier victoire trop tôt. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. J'attends de voir cette doublette-là. Je pense qu'il peut être vraiment complémentaire. Si Juninho a pris Silvinho, je pense quand même qu'il le connaît bien, qu'il peut être assez complémentaire.
Ouais, je pense qu'avant de faire le choix, Juninho, il s'est un peu rencardé comme il faut sur le mec, quand même.
Ouais, voilà. Je pense que puis ça fait quand même 10 ans, apparemment, d'après ce que j'ai vu, que Silvinho, on va dire, travaille ce métier d'entraîneur. Il était adjoint de plusieurs, on va dire, grands coachs, quand même. Donc, ça peut être intéressant pour Lyon, et en tout cas, je pense que ça va déjà amener un vent frais. Je pense qu'au niveau du jeu, déjà, ça pourra pas être pire. Voilà, quand même, deux Brésiliens, on peut se dire que ça va jouer.
Ouais, voilà. Ça veut rien dire. Alors là, si tu veux, on parle de Dunga, ça va te calmer tout de suite, hein, clairement. Hein. Ça va rien dire. Il y a des mecs qui jouent dans tous les pays, et d'autres qui jouent pas.
Voilà, au Brésil, on sait qu'il y a deux écoles, mais il y a une majorité quand même qui sont plutôt pour une école offensive.
D'accord, mais après, sur le Sévigno, on sait pas ce qu'il y a.
Ricardo, tout ça existe, c'est vrai. Non, ce que tu peux noter, c'est la rareté.
Des entraîneurs brésiliens ces dernières années.
Non, mais même en général, il y a très peu de Brésiliens qui ont marqué l'histoire du foot en tant qu'entraîneur.
Alors attends.
C'est pas un poste sur lequel ils ont beaucoup théorisé, beaucoup travaillé. Des grands entraîneurs brésiliens, c'est compliqué. Télé Santana, Zagallo, mais.
Ah, Zagallo quand même, si.
Ouais, mais c'était bizarre leur façon d'être. C'était plus trouver l'osmose pour que les artistes réussissent à jouer ensemble.
C'était plus de management que du style.
Mais il y a pas de, tu vois, de non, c'est plus justement du style que du management. C'était plus allez-y quoi, c'est réussir la partition.
Bah pour moi c'est du management justement.
La brésilienne va se réactiver et prendre de l'ampleur à Lyon comme elle était avant.
Ah, de la filière brésilienne.
Et puisque tu parlais d'entraîneurs brésiliens, on a cherché. Alors on a regardé dans les archives, on a trouvé 3 entraîneurs brésiliens dans l'histoire de la Ligue 1.
Bah, Ricardo,
forcément.
Ouais. L'autre là, Messi. Putain, au PSG, il était pas brésilien.
Bah Ricardo.
Ah non, Abel Braga, il est portugais.
Non, il y a lui, Abel Braga.
Ouais,
il y en a un autre. Alors c'est de l'histoire.
Et à l'OM,
années 60, qui est un grand nom du football portugais d'ailleurs, mais qui est brésilien. C'est lui qui a mis en place Otto Gloria. Voilà.
On ne connaît pas.
Il a entraîné les 3 grands en Portugal. C'est lui qui a mis d'ailleurs le professionnalisme au Portugal également. À Marseille, dans les années 60. Ouais. Voilà. Et nous, on en a trouvé que 3. Alors, sur le hashtag RMC Live, si vous en avez d'autres, des entraîneurs brésiliens qui sont passés par la première division ou la D1, on attend également vos suggestions. Merci Clément d'avoir été avec nous.
Merci à vous les gars. Bonne soirée.
Bonne nuit, à bientôt. À bientôt Clément. Tiens, c'est fini au hockey entre la France et la Finlande. Tour préliminaire du championnat du monde, Morgan Mori.
Un but dans chaque tiers-temps et succès finlandais 3-0 contre l'équipe de France. Rendez-vous demain 16h15 pour les Bleus de Philippe Bozon contre la Grande-Bretagne. Une victoire et les Français se maintiendront dans l'élite du hockey sur glace.
Merci beaucoup, bonne soirée à toi Morgan. Et on finit sur l'OL avec Noah qui nous a appelé au 32-16. Salut Noah.
Salut les gars.
Toi en revanche t'as pas l'air emballé toi.
Non, c'est juste que j'ai la voix un peu enrouée, c'est
d'accord.
Tout. Ça va.
Bon.
Ça
va. Qu'est-ce que t'en penses alors de ce duo, toi, Juninho-Silvinho à l'OL?
Bah, ce que j'en pense, pour l'instant, je pense pas encore grand-chose de Silvinho parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il vaut en tant qu'entraîneur. Et ce que je trouve dommage, moi, c'est qu'on n'ait pas essayé ou poussé un peu plus loin pour Arteta parce que ça nous aurait permis, bah, déjà d'avoir un coach qui a une vraie idée du football et qui peut s'inscrire dans le projet de la formation de Lyon. et aussi parce qu'il y a un petit groupe de gens qui gravitent un peu autour de Guardiola, de l'Ajax, des clubs et des gens de cette philosophie-là. Et je trouve que Lyon fait en quelque sorte partie de ce projet de football qu'ils veulent développer. Et voilà, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas essayé d'avoir un entraîneur de cette idée de jeu-là. Mais voilà, pourquoi voir. On revient avec la filière brésilienne qui nous a beaucoup servi et avec qui on a fait de grandes choses. Donc ça peut être pas mal. J'attends de voir.
Ah oui, mais comme tout le monde, on attend de voir.
Ouais, on attend de voir finalement. Après, Mikel Arteta, il est adjoint, hein, il est pas entraîneur non plus. Hein.
Non, mais il disait adjoint pour adjoint, tout. Mais bon, oui, peut-être. Comme Silvinho, on sait pas bien. Bah, ça se trouve, Arteta, ok, c'est parce qu'il y avait le tampon Guardiola sur la tronche, quoi. Mais ça se trouve, Silvinho, lui aussi, s'inscrit dans une philosophie de jeu similaire. Hein.
Le dernier adjoint de Guardiola aujourd'hui, il est à l'Ajax. C'est ce qu'il a fait cette année.
Donc, ouais, ouais.
Voilà, quand même quelques garanties. Au niveau de
oui, globalement, t'apprends bien le football, t'es à ses côtés, quoi. En tout cas, le football que t'aimes. Et oui, ça, oui, oui.
Ouais, non, t'as une garantie sur le football qu'il aurait essayé de donner. Après est-ce qu'il l'aurait fait aussi bien que son maître? On sait jamais. Tant qu'ils sont pas en numéro 1, on sait.
Alors, regarde, Guardiola a fait aussi bien que son maître, hein, même mieux, hein, beaucoup mieux.
Oui, oui, non, mais t'en as qui le font et t'en as qui arriveront pas. Ouais.
Quiz que me souffle Jérôme Thomas dans l'oreillette. Depuis combien de temps notre auditeur n'a pas gagné Roland Garros?
Notre auditeur. Ah, Noah.
Bah, tu sais ou pas?
Bah, c'est 83.
Bah, de toute façon, trop facile pour les.
Ouais. Non, sur le tennis, avant de me coller,
surtout moi, en plus, ouais. Merci, Noah, d'avoir été avec nous dans quelques instants.
C'est un truc aussi facile en même temps.
Avis tranché de Pierre Ducrot qui concerne l'AS Monaco. L'AS Monaco doit servir d'exemple. Tu vas comprendre juste après ça.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Pierre Ducrot. On était avec Valérie, notre community manager. Petite surprise à venir, hein, dans quelques minutes également. Branchez-vous sur RMC Sport News. Il y aura des trucs sympas à visionner. Sinon, on vous le fera suivre, bien entendu, sur le compte Twitter de l'After également. Hier, Monaco s'est imposé 2-0 contre Montpellier. Succès très important pour l'ASM. Succès très difficile également, hein, face à Amiens hier, de Monaco. Non, ton avis tranché.
Je crois qu'ils s'en foutent, hein.
Hein?
Je crois qu'ils s'en foutent difficilement.
Ils sont
sortis de la galère et voilà.
Et ton avis tranché, mon Pierre Ducrot, porte justement sur Monaco, jingle.
On le préfère ou on préfère ailleurs, ça c'est une opinion et c'est une opinion, un opinion.
Ah, j'ai senti qu'est-ce que c'est que cette histoire là.
Ah, j'ai senti qu'il y avait un problème.
Mais alors, il s'était un peu embourbé.
Ah, ouais.
Alors, un ou une opinion?
Une opinion.
Voilà, tu vois, t'es là. Alors pour toi, Pierre, cette saison de Monaco doit servir de leçon, voire d'exemple, et pas qu'à Monaco d'ailleurs.
Ouais, j'avais mis comme titre l'exemple Monaco, l'exemple parfait à ne pas suivre, parce que finalement, depuis 3-4 ans, ça c'est pas un avis tranché, c'est un constat, vente de joueurs en masse chaque année, tous ceux qui ont le plus de qualité et qui rapportent le plus, on les balance, on les vend, un coach compétent qui à chaque fois reconstruit et ça se passait plutôt bien. Bon, ce coach-là, à un moment donné, il est un peu lassé quand même, donc il a envie d'arrêter. Il arrête, ça coûte quelques millions à l'ASM. On reprend un coach tout frais, tout neuf, parce qu'on pense que ce coach tout frais, tout neuf, sans expérience, va pouvoir refaire les mêmes choses, sauf qu'on s'aperçoit au bout de 2 mois que ça va pas le faire du tout. Donc, recoup de millions pour virer le coach et on reprend celui qui avait très bien fait avant. Sauf que c'est trop tard cette fois-ci. Le mal est fait, la saison est déjà bien entamée et tout Jardim qu'il est, il peut pas faire le magicien. Et dans une époque où beaucoup de clubs, alors pas qu'en France, hein, mais en France particulièrement en ce moment, où beaucoup de clubs veulent faire ce qu'on appelle du trading. Hein, voilà, on essaye d'acheter au mieux et pas cher et jeune pour revendre et faire des millions avec des joueurs jeunes et où on se soucie finalement très peu de ce que sportivement ça va rapporter. Ça fait presque du bien de voir que Monaco est passé à ça de la catastrophe, parce que si Monaco, alors là je pense, là voilà, la catastrophe elle est plus possible, mais à un match près, si hier soir ils perdent et honnêtement quand on voit le match d'hier soir,
elle est possible, c'est justement catastrophe hier, cataclysme. Enfin,
là honnêtement ça, ouais. Bon voilà, ils ont fait le plus dur hier soir je pense.
C'est bon là.
Ouais c'est bon.
Calmons-nous,
mais finalement
hein.
Ça se
faut
joue
pas se faire peur, là.
Avec tous les millions que Monaco a empochés, tous les millions que Monaco, oui parce qu'on a oublié que Jardim en plus qui est revenu, il y a eu aussi un mercato qui a coûté très très cher à la SM et qui a été fait à l'opposé de ce que tu fais normalement quand tu fais du trading, c'est-à-dire où tu prends le temps et où tu anticipes toutes tes recrues pour pas te tromper. Ce que Monaco avait d'ailleurs bien fait avec Campos jusque-là.
Ah oui, bon. Là pour se relancer, t'es même allé prendre des mecs que tu peux pas
revendre, quoi.
Exactement. Alors ça c'est aussi autre chose.
Là, c'est l'oseille à perte. Là.
C'est que là, alors ils se sont sauvés en Ligue 1, donc ça va limiter la casse. Mais s'il y avait eu Ligue 2, là, je te raconte même pas tout l'argent qu'ils avaient pu empocher. Là, tu le perdais en 2 mois, tu le perdais aussi vite, aussi sec. Hein. Et je pense qu'on aurait été pas loin d'une balance très flat, voire négative. Ceci dit, Daniel, t'as raison. C'est là aussi où je veux en venir, c'est que à un moment donné, ce système a ses limites, parce que quand sportivement ça ne marche pas, et c'est ce qui t'attend quand tu fais ça 3-4 ans de suite, à un moment donné sportivement ça peut plus marcher, parce que t'as des joueurs de qualité, mais il y a plus rien d'autre, il y a plus aucune cohérence, il y a plus aucun système de jeu, il y a plus rien mis à part des joueurs individuellement empilés, parce qu'on pense que ces joueurs individuellement ils arrivent pas à s'en sortir, parce que collectivement ils peuvent rien faire, et ça fait presque du bien aujourd'hui. De remettre un peu sur le devant que le foot est un sport collectif et qu'à un moment donné il faut aussi gagner et avoir une certaine cohérence dans le jeu et dans ton projet pour que ces joueurs individuellement te rapportent des plus-values. Quelques-uns, pas tous. Ça fait aussi du bien parfois de se dire qu'il faut aussi acheter parfois des joueurs de 26, 27, 28 ans et pas que du jeune de 20, 22 ans qui va te rapporter. Parce qu'à un moment donné, ces joueurs de 27, 28 ans, tu feras pas x2, x3 ou x10. Mais tu vas gagner des matchs dans l'immédiat. Et ça, c'est très important aussi. Donc voilà, c'était presque, c'est pas un avis tranché, en fait. C'est un constat. Et qui m'amène à dire que finalement l'exemple de l'ASM doit être retenu par pas mal de clubs, parce que
il y en a pas mal qui suivent
trop loin dans ce système. Et surtout, attention à la chute.
Et surtout que pas mal de clubs aujourd'hui, revendiquent du moins également ce modèle de trading. Hein, on pense à Bordeaux, c'est complètement décomplexé.
Il y en a beaucoup. Puis ailleurs qu'en France aussi. Hein,
D'ailleurs, Bordeaux, c'est tellement décomplexé qu'ils voulaient carrément officialiser le contrat de leur entraîneur, Paulo Sousa, pour qu'il ait un pourcentage sur une plus-value sur les éventuels joueurs qui allaient bien également.
T'imagines. Voilà.
Non, mais Lille a également ce modèle.
T'imagines la position de l'entraîneur quand tu as des pourcentages sur la revente des joueurs. Alors on peut voir le.
Bah, moi, je me dis que ça existe déjà et que
tu peux voir.
C'est pas officialisé, donc quand
tu sais quoi, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu dis l'entraîneur, il est très intègre dans son boulot de coach et il mettra quoi qu'il arrive les meilleurs sur le terrain pour gagner des matchs. Et après, t'as la manière aussi de l'autre manière de voir les choses, en se disant le coach, si même au détriment un peu de la qualité du jeu ou la qualité des résultats, il va peut-être préférer mettre le petit jeune qui est bankable et le faire jouer quand même s'il est pas encore au niveau, même si à un moment donné il faut lui faire passer 2 mois sur le banc, et comme ça il continuera à avoir une certaine valeur peut-être, et puis il aura un pourcentage à la fin.
Bon, on avait un peu discuté.
C'est encore aussi autre chose de très perverse là-dedans, je trouve.
Pierre, Daniel.
Écoute, moi je suis déjà un peu dans la saison prochaine, puisqu'à Monaco on en parle depuis le mois de décembre, peut-être même ont-ils parlé un peu trop tôt de la saison prochaine, mais bon là maintenant on y est vu qu'ils se sont sauvés.
Le coach n'était pas dans la saison prochaine, hein, ouais. Parce que lui depuis quelques temps il est dans sa bulle, et crois-moi qu'il la voyait arriver la Ligue.
On a ressorti des phrases où Jardim, je trouve pour un coach c'était un peu passé inaperçu, mais très tôt a commencé à parler de la saison prochaine et des ambitions pour l'année prochaine.
Oui, alors attends,
il est arrivé en janvier.
Juste une chose, je pense qu'il s'est fermé avec ça. Jardim, dès l'intersaison dernière, dès la fin de saison dernière déjà, il sentait le mauvais coup arriver.
Oui,
il y avait ça aussi, c'est-à-dire les dirigeants l'ont peut-être pas écouté non plus au moment de vendre certains joueurs l'année dernière.
Alors maintenant qu'ils se sont sauvés, effectivement, ils peuvent y penser concrètement. Et je suis assez curieux de voir le chemin que va prendre Monaco, parce que cette année, il y a eu pas mal de changements. Hein. Jardim parti, finalement revenu, et puis donc ça va être lui le prochain entraîneur de l'ASM. Mais Vassiliev est parti aussi. Donc c'est un peu la structure club qui doit être relancée. Comment Riboloviev va organiser ça? Et est-ce que réellement les ambitions de l'équipe vont être de jouer le podium avec cet effectif-là, avec des ventes, avec du recrutement? Je trouve que c'est bien flou. Monaco, ça fait partie, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de Paris, Lyon, Marseille, les clubs en pleine restructuration, faut pas se tromper, faut faire les bons choix. Monaco, c'est un petit peu pareil, et c'est notre autre grand club français, celui où il y a des moyens. Parce que mine de rien, on dit toujours, nos clubs, mais il y en a des clubs où il y a de l'oseille chez nous, mine de rien, à Paris. Monaco, il y a beaucoup d'oseille, Lyon, il y en a aussi. Donc là, l'année prochaine, rien à attendre d'eux, ils seront pas Coupe d'Europe, rien, mais
ça leur fera peut-être du bien.
Mais si jamais ils construisent une équipe pour être sur le podium, ça, bon, j'espère que l'année d'après, ça continuera, c'est ça, avec eux qui est un peu. Là, je te rejoins. Là. Ce modèle-là, c'est tellement toujours fluctuant,
tu pourrais avoir un entre-deux qui serait cohérent et vivable peut-être sportivement, mais là on est parti dans l'excès, quoi.
Non, mais là c'était l'excès l'été dernier.
Ouais. Exactement. Ouais. Donc de quelle façon ils vont réguler ça à nouveau, c'est un des, il y a beaucoup de clubs qui ont un gros point d'interrogation à côté d'eux quand même. C'était
Et d'ailleurs, et même Lille, pour qui ça a été un succès cette
Lille,
saison,
on en parle pas,
ça a été les montagnes russes en l'espace de deux saisons. Hein. Eux, pour le coup, ils ont vécu ce que Monaco a vécu sur les cinq dernières années, mais en deux ans. Ils ont flippé, ils ont joué, quoi. Mais ils ont un peu vécu les deux. On va accueillir Jérôme, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16. Salut Jérôme.
Et salut l'after. Salut
tout. Bonsoir Jérôme.
Alors Jérôme, quand on est supporter de Monaco, comment on les vit ces dernières saisons finalement?
Pas très bien. Pas très bien, parce qu'il y a eu le rêve, avec une saison de rêve avec le titre de Monaco il y a deux ans, et un parcours sublime en Champions League. Et je pense que, vu que, comme je l'ai entendu là tout à l'heure, Monaco, voilà, c'est un des deux gros clubs qui a de l'argent en Ligue 1, quoi. Je pense qu'ils ont loupé le coche pour passer un cap et s'imposer peut-être sur la durée au plus haut niveau, je veux dire du même standing que le PSG, quoi.
L'objectif est pas du tout le même, hein.
Ouais.
Là, l'objectif c'était de faire rentrer dans de l'oseille en caisse, hein.
Ben c'est ça, ils ont vu parce que l'alchimie a été bien de faire des recrues comme Falcao, quelques joueurs comme ça qui ont de l'expérience.
Oui, mais en fait, le truc,
c'est l'alchimie avec des jeunes, mais les jeunes, ils les ont vus comme des billets, quoi.
Ben ouais, non, mais Jérôme, le problème de ce modèle, c'est que si tu fais une saison comme celle que Monaco a fait, c'est-à-dire fort en championnat, fort en Ligue des Champions, derrière, t'as tellement d'offres que tu peux pas laisser passer ça, parce que tout le monde dit ils ont exagéré. Ouais, certainement que le bilan c'est celui-là et que Jardim avait senti machin, mais si ton modèle c'est de faire rentrer de l'oseille, comment veux-tu résister à l'opportunité qui t'est offerte de vendre à prix d'or des joueurs après une saison extraordinaire? C'est tellement dingue la saison que t'as, et puis tu peux pas dire ouais mais j'attends un peu, je vais revendre l'année d'après. Non, si ton objectif c'est le trading de joueurs, ça n'est pas possible. Prenons juste l'exemple de quelques joueurs. Benjamin Mendy, vendu mais une fortune. Tu le revends à ce prix-là l'année d'après? Qu'est-ce que t'en sais? Thomas Lemar, tu le revends au moment où ils l'ont gardé justement. Au moment où ils le vendent très cher. Est-ce que tu le gardais un an ou deux ans? Tu le revends. Quand tu fais ce business-là, tu peux difficilement dire ah je vais le garder un an de plus parce que le joueur ne se bonifie pas toujours. Pas toujours.
Non mais c'est surtout, c'est dépendant des résultats de l'équipe.
Regarde ce qu'on disait sur certains joueurs de l'OM qui d'un coup valent moitié prix l'année d'après.
Mais c'est les résultats de l'équipe surtout qui font ça.
Ben bien sûr, ouais, c'est ce que je dis. Quand les saisons, celles où ils font demi de Ligue des Champions, derrière avec les offres qu'on met sur la table, qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que tu trouves pas Daniel
Ils sont allés loin, mais ils sont pas allés loin. Ils ont respecté le marché.
Daniel.
Et Riboloviev, il a respecté son portefeuille.
Est-ce que tu trouves pas un entre-deux justement pour t'installer à moyen terme en haut et garder toujours une certaine valeur pour tes joueurs qui arrivent et qui repartent?
Si je me mets à leur place, si j'ai ce modèle-là, je crois pas que je pense que je fais la même. Je peux pas, si mon modèle
Tu joues avec le feu, parce que tu vois,
tu joues avec le feu, aussi en laissant passer des offres, c'est ça que veut dire Daniel.
Tu joues avec le feu, d'abord d'une, parce que tu risques de perdre de l'argent en laissant passer, et deux, le jouer avec le feu, la saison-là, ok, Jardim le sent venir et tout, mais quand même, sur le papier,
ça continue à être une bonne équipe.
Si ça déconne pas, sur tu dois papier, quand même être top 5 avec cet effectif. Hein.
Ah, sauf que t'as vu les matchs qu'ils ont fait.
Je sais bien.
T'es loin du top 5, ils sont à leur place.
Mais tu peux pas laisser passer, quand t'as ce modèle économique, tu peux pas laisser passer l'occasion de vendre. Putain, mais ils ont vendu à des tarifs de malade.
Je sais bien. Mais c'est, ouais.
T'aurais pas fait autrement, Pierre. L'oseille t'aurais pris.
Et vas-y Jérôme,
de communication aussi à l'arrivée des Russes, parce que ils ont annoncé le projet en recrutant des gros joueurs et de l'expérience, etc. Ils ont vu que ça marchait pas, ils avaient pas les résultats dans l'immédiat et voilà, ils ont changé carrément de fusil d'épaule et voilà, ils sont partis directement sur la jeunesse.
Ça a été au bout d'un an, Jérôme. La première année, ils font venir Rames, etc. Au bout d'un an déjà, ils ont, comme tu dis, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont dit bon bah maintenant, on va dans le trading, on valorise des joueurs, on les vend cher, on fait de la plus-value. Et finalement, c'est ça qui a bien fonctionné d'ailleurs à Monaco.
Bah c'est ça, ils font tourner le club comme une entreprise.
C'est pas nouveau, on découvre pas maintenant, hein, Jérôme. Hein.
Ouais, malheureusement, ça au détriment du niveau du club, quoi.
Jérôme, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, à bientôt. Merci. Jérôme. Salut. Ciao, Jérôme. Il y a les trophées UNFP, toujours 28e édition, et le nom des lauréats continue de tomber. On vous rappelle, meilleur espoir Mbappé, meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1, Christophe Galtier, meilleur gardien, c'est Mike Maignan, meilleur français de l'étranger, Karim Benzema, meilleure joueuse marocaine, comme lors des deux précédentes saisons, Katoto, meilleur espoir féminine également, et il y a les trophées pour la Ligue 2 également qui sont tombés. Meilleur entraîneur, Pascal Gassien, qui est l'entraîneur de Clermont. Alors ils sont 10e, c'est vrai, c'est surprenant. Tu disais Pierre,
Ouais, je suis pas étonné. Ouais, je suis pas étonné.
Pourquoi?
Tous les joueurs avec qui je parle qui sont passés par cet avec cet entraîneur ont pris énormément de plaisir et ont souvent progressé. Alors ils ont pas suffisamment de qualité pour jouer les tout premiers rôles, c'est dommage, mais c'est un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Clermont fait des très bons matchs en Ligue 2. Alors il y a pas toujours le résultat, parfois il leur manque un peu un finisseur ou des choses comme ça, mais c'est un entraîneur qui plaît à ses joueurs.
C'est pas, ça a pas dû arriver souvent
et c'est pas toujours.
Que le trophée du meilleur joueur de Ligue 2 soit pas attribué à un promu, cela dit, hein. L'année dernière, c'était Guillon, notamment, avec Reims. Meilleur gardien de Ligue 2, c'est plutôt logique également. Il y a eu beaucoup de papiers sur lui au cours de la saison. C'est De Marconnet, le gardien du PFC également.
Excellent.
Voilà, qui a fait une grosse saison.
Quel pied, là.
Ouais.
Excellent.
C'était Bernardoni la saison dernière avec Clermont, tiens, justement. Meilleur joueur de Ligue 2.
Charbonnier.
Ouais. Charbonnier. Meilleur buteur cette saison, également. L'année dernière, vous savez qui c'était? Vous vous souvenez du meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière?
Non.
Très, très beau joueur. Qui jouait chez un promu, très beau joueur, vraiment. Il avait joué en Ligue 1 déjà.
Il est resté chez le promu.
Non, il est parti justement. Je crois que c'est aux Émirats Arabes Unis qu'il est parti. Très très beau joueur, brésilien. Diego Rigonato.
Ah oui. C'était lui l'année dernière.
Ouais, c'était lui l'année dernière. Ouais. Ah, ouais, c'était Diego Rigonato.
Si il allait faire les trophées, moi je regarde d'un œil quoi.
Rigatoni.
Non, c'est l'Italien.
Ah oui.
Rigatoni.
Vous vous souvenez qui était meilleur joueur de Ligue 2 en 2012?
En 2012. 2012.
Ouais.
Roten. Olivier Giroud.
Oh, si tu poses la question.
Ah non, je pose la question. Ah, je crois que Giroud l'a même pas été meilleur.
Giroud 2010.
Avec Tours, il l'a été.
Giroud 2010, me dit Jérôme Thomas.
C'est ça.
Et voilà. Dans quelques instants, les infos du jour. Et c'était bien avec Tours. Voilà. Bisous à Florent Gautreau. Dans quelques instants, toutes les infos du jour également. Et puis tiens, le programme également du RMC Poker Show qui vous attendra à partir de minuit. Vous le savez, gros after de 3h ce soir. On sera tout à l'heure avec David Lortolari pour revenir sur le sacre du Bayern, sur la grosse saison, la dernière d'ailleurs de Franck Ribéry avec le club uniquois. On fera également le bilan sur la saison portugaise avec Alex De Castro. Et puis la Serie A avec Simone Rovera. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live dans ce grand after de 3h, 28e édition des trophées UNFP. On vous le rappelle, Saver Desfarges qui est sur place au pavillon Arménonville, meilleur espoir de Ligue 1 de la saison, Kylian Mbappé.
C'est pas le pavillon d'Arménonville?
Non, moi il m'a dit Arménonville.
Hein?
Ouais, c'est ce qu'il m'a dit.
Ouais. Faut checker ça. Ah ouais, moi c'est le pavillon d'Armenonville.
Les gars, j'en sais rien. Moi on m'a dit ça. Non, je ça répète. Au revoir, j'en sais rien. Ça se check. Check en haut.
Je check.
C'est du côté de Boulogne. Voilà. Il va nous donner les indices.
Ouais, c'est dans le bois.
Moi j'en sais rien, les gars. Christophe Galtier, meilleur entraîneur de la saison.
Il a raison. D'Armenonville.
C'est Armenonville. Ah ouais, donc c'est ça. C'est bon.
Armenonville, ça existe aussi. C'est une ville, je crois, dans le Vexin, un truc comme ça, non? Ou dans l'Oise?
C'est pas dans l'Oise plutôt?
Dans l'Oise peut-être. Ouais.
Peut-être.
Bon bref.
Mike Maignan, meilleur gardien de la saison également. Karim Benzema, meilleur français de l'étranger. Meilleur joueur de Ligue 2, c'est Charbonnier avec Brest. De Marconnet, meilleur gardien avec le PFC. Meilleur entraîneur, Pascal Gassien avec Clermont. Meilleure joueuse de la saison, Marochane avec le LOSC. Et meilleur espoir féminine, Katoto avec le Paris Saint-Germain. Meilleur arbitre de la saison également, Clément Turpin. Vous savez que l'année dernière, ils avaient fait la grève, hein, les arbitres. Hein. Ils avaient refusé de participer au trophée. Il n'y avait pas eu de L'Oréal, du coup, de remis. Quelques infos du jour. Avant cela, il y a du rugby ce soir, Flo Germain. Toulon-Clermont.
Exactement, 27 à 11. Et oui, je suis encore là. J'ai même sonné une fois ou deux pour vous dire, ne oubliez pas les enfants. Mais je vous écoute, c'est intéressant. 27 à 11 pour les Toulonnais. 3 essais marqués par Petersen, Webb et Facundo Issa contre un essai de Grosso pour les Clermontois. À noter que il y a eu ce qu'on peut appeler une bonne bagarre générale là qui s'est terminée par un carton rouge pour Romain Taofifénois qui a mis une droite à Van der Merwe qui lui aussi s'est pris un carton jaune. Ça a été très chaud l'espace d'un instant, donc voilà, il n'y a pas d'enjeu, mais ce match va pas réconcilier les tensions entre Toulonnais et Clermontois. Il y a eu parfois quelques finales, quelques matchs importants entre les deux équipes, et là il y a eu 1, 2, 3, 4 cartons jaunes et un carton rouge donc pour Taofifénois. C'est très tendu sur la pelouse. 27 à 11 en tout cas pour les Toulonnais. Il reste 7 minutes à jouer.
Merci beaucoup. Coup, Flo Germain, on vous rappelle, Gaëtan Charbonnier, élu meilleur joueur de Ligue 2 de la saison au trophée UNFP, élu, alors il y avait nommé avec lui Claude Maurice, Boulaya, Coad et Diallo, et devinez qui est en direct avec nous dans l'after, et bah Gaëtan Charbonnier, bonsoir Gaëtan.
Oui. Bonsoir.
Bravo Gaëtan, bravo pour ce trophée.
Merci.
Alors Gaëtan, Brest va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Grosse saison du Stade Brestois, grosse saison pour toi également Gaëtan. Est-ce que t'es surpris d'ailleurs déjà par cette saison, par ce trophée par exemple?
Bah au vu de la saison, surpris oui et non, parce que ça fait toujours plaisir d'être élu par ses pairs. Après j'ai fait une grosse saison, donc je savais que je serais pas loin. Maintenant voilà, c'est les joueurs qui ont voté et je les en remercie.
Tu t'es fixé un objectif d'ailleurs en termes de but cette saison?
Bah on s'était fixé de faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire 9.
Ah oui, effectivement, t'en as 27.
J'ai l'adjoint Jean-Michel Padovani qui m'avait après fixé la barre des 15 buts. Donc une fois franchi, après je lui ai dit qu'il n'y avait pas de limite. Donc on verrait où tout ça nous mènerait, et ça nous a mené en Ligue 1, et c'est exceptionnel.
Ah, c'est vrai que t'as 30 ans Gaëtan, c'est ta meilleure saison en termes de statistiques. Qu'est-ce qui a changé? Comment t'expliques que ça ait si bien fonctionné cette année justement?
C'est la vie d'un groupe, le discours d'un coach qui fait que voilà, je me suis senti bien dès mon arrivée à Brest, et le vécu qu'on a vécu ensemble, c'était humainement très fort, et ça c'est quelque chose d'important dans un vestiaire et pour des performances.
Et alors, justement, alors le coach, il est parti, celui de cette belle aventure, c'est un petit peu étonnant, non?
Oui, on était tous étonnés. Après, je pense que ils ont fait le club et le coach ont fait leur choix d'un commun accord. Donc voilà, il faut le respecter, et on va souhaiter le meilleur à Jean-Marc pour la saison prochaine.
La Ligue 1 avec Brest ou la Ligue 2 avec la GIA pour remarquer 27 buts?
Pour l'instant, ce sera la Ligue 1 avec Brest.
Et justement, puisque tu parlais de ta performance en la liant à l'aventure du groupe et au discours du coach, le fait que, ok, on respecte la décision, machin, il s'est barré, tout ça, mais ça va changer. Peut-être que, je sais pas si tu seras aussi performant, mais c'est étonnant de ne pas continuer l'aventure avec ce coach. Il y a pas, les joueurs ont pas cherché à savoir, ont pas dit, dans ces cas-là, les joueurs manifestent pas leur envie de continuer avec un entraîneur.
Je réponds à ta place, du temps pour pas te mettre dans la merde.
Tu cherches un agent ou pas?
Non, vous savez, nous, malheureusement, on n'a pas notre.
Mais bien sûr. Ouais.
On n'a pas notre.
Non, mais c'est un regret dans ces cas-là. Est-ce que c'est un regret pour toi?
C'est aux instances de choisir, qu'on fait leur choix, et nous, on doit l'accepter, tout simplement.
Mais est-ce que c'est un regret, comme demande Daniel, finalement, Gaëtan, de voir Jean-Marc Furlan partir?
Oui, pour moi, c'est un regret, c'est sûr, et pour beaucoup, mais malheureusement, on est bien obligé de faire avec.
Ah oui. Ouais. Et donc tu vas passer de l'attaquant qui joue dans l'équipe qui se bat pour monter à l'attaquant d'une équipe qui va essayer de se battre pour le maintien. Psychologiquement, ça n'a rien à voir, quoi, en fait.
Ouais, c'est pas le même taf. Ouais.
Bah, on va tâcher de pérenniser le club en Ligue 1 déjà. Après, se battre pour le maintien, je sais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour maintenir le club.
Ah oui. Vous pouvez faire comme Strasbourg, comme Nîmes.
Le plus vite possible. Après, il y a des saisons où une saison est longue, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc voilà, il faudra prendre les matchs les uns après les autres et aller essayer d'assurer le maintien le plus vite possible.
Et t'es très excité à l'idée d'être en Ligue 1 avec Brest. T'as une longue expérience, sans que ce soit péjoratif du tout, en tout cas pas dans mon esprit. T'es un joueur qui, tout au long de sa carrière, a plutôt été estampillé Ligue 2. Malgré tout, t'as cette excitation d'aller en Ligue 1, peut-être même si t'as 30 ans, prouver que tu peux faire bien au niveau au-dessus.
Excusez-moi, j'ai pas entendu la question.
Ouais, c'est normal, elle était un peu relou, sa question.
Un peu longue.
Comme par hasard, Gaëtan Charbonnier. Ça y est, t'as pris le trophée du meilleur joueur de Ligue 2, t'as le boulard. Allez, on comprend plus les questions qui dérangent.
On va parler à côté.
En gros, Daniel te demandait si le projet, c'est ton projet personnel, c'était de prouver à tout le monde qu'à 30 ans, tu pouvais aussi être un bon joueur de Ligue 2 et pas estampillé
Ligue
2 uniquement, quoi.
Vous savez, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Le discours change beaucoup. On verra. Déjà, on est en vacances, mais on est dans le flou parce qu'on ne sait pas qui sera là avec nous l'année prochaine, quel coach on aura. Donc, quand on saura tout ça, on pourra se poser en face et savoir ce qu'on peut faire l'année prochaine.
Okay. Gaëtan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore bravo pour ce trophée de meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Bravo Gaëtan, et puis bon courage pour la saison prochaine.
Moi, je suis sûr que toi l'année prochaine. Moi, je le sens. Je sais
c'est vrai que c'est annoncé d'Aloglio du côté de Brest.
Très bien.
Bonne soirée. Merci, salut Gaëtan.
Imagine la Gaëtan qui te répond. Ah non, je l'aime pas.
Bonne soirée.
Salut Gaëtan, merci d'avoir été avec nous. C'est bon ça.
Ah non, je l'aime pas lui.
Franchement, je l'ai croisé une fois.
Ah ouais, non,
voilà, non, ça va pas du tout.
On est au PSG, Gaëtan Charbonnier.
Non. Il a fait une saison en CFA, mais il n'est pas formé là-bas.
Il n'est pas formé au PSG, mais il a joué jeune là-bas.
Ouais. Il a joué une saison en CFA en 2008-2009. Il est arrivé d'une CFA déjà, il était à Châtellerault, voilà, juste avant. Et il est passé par l'US Torcy, parce qu'il est né à Saint-Mandé, donc il est de la région parisienne.
Pas me dire, Daniel,
il est passé par Tours également.
Il fallait garder au PSG parce qu'il a marqué 27 buts là. Non, tu ne vas pas me dire ça quand même.
Ah, si,
non, comme en ce moment, c'est la mode avec les
acteurs. Ah oui, le PSG l'a raté.
Incroyable de la PSG.
C'est vrai que c'était un peu le truc en ce moment. Petites infos du jour, les gars. Vous avez peut-être suivi ça d'ailleurs. Compagnie annonce son départ de City et s'engage avec Anderlecht.
Oh, ouais, truc.
Alors, il a 33 ans, le défenseur belge. Il est arrivé à City en 2008. Il a disputé plus de 260 matchs avec les Sky Blues. Il a remporté 4 titres de Première Ligue, 2 FA Cup, 4 League Cup. Et dans la foulée de l'annonce de son départ de City, Anderlecht a communiqué son retour 13 ans après. Lui qui est passé là-bas très jeune. Il a signé un contrat 3 ans en tant que joueur-manager, Vincent Compagnie. Alors, Michael, je sais pas comment on dit d'ailleurs, Verschuren, directeur sportif du club, a détaillé.
C'est le frère d'André. Verschuren.
D'accord.
Tu connais pas André Verschuren?
Non. Dommage. Donc j'ai pas compris ta vanne. Il a détaillé. Il a détaillé le directeur sportif d'Anderlecht, le rôle de Compagnie. Ah. Je cite. Il décidera de la tactique de l'équipe. Il déterminera ceux qui jouent. Mais quand il sera sur le terrain, il fera appel à un entraîneur qui viendra avec lui et qui fera le coaching.
Il pourra se sortir.
Voilà. C'est bizarre un peu, non?
Ouais, c'est les bizarres.
Ah, bah, mais tu sais quoi, c'est très bizarre et j'aimerais pas être à sa place, quoi. Parce que, enfin, t'es dans un vestiaire où tu dois coacher, cohabiter avec tes,
regarde
avec tes
coéquipiers. Regarde, l'année dernière, quand t'étais dans mon équipe, tu m'as bien empêché de te sortir.
Au match de l'after?
Ouais.
Sérieux?
Non, je sors pas, je suis encore en forme.
Ah ouais, t'as dit ça?
Je dis alors
ça
que t'étais claqué à la cuisse.
Je t'ai dit ça?
Ouais.
Mais t'as joué toi ou pas?
Je voulais te sortir.
Mais t'étais pas entraîneur joueur.
Si. J'étais entraîneur, pas joueur.
Ah bah voilà. Alors, oui, ça marche pas.
Hein. Et lui, il a pas voulu. Non, c'est bon. T'avais la cuisse, tu pouvais même plus avancer.
C'est pas Pierre, tu sors.
Non,
c'est bon, je suis pas claqué au match de l'after.
Alors que tu boitais.
Mais non, c'est pas moi, tu confonds.
Ah, non, je te confonds pas. Bien sûr que non. T'as dit, je te reprends, mais t'écoutes le coach dans les consignes.
Il est bientôt 23h, vous savez qu'à minuit.
Sinon, je te mets dans l'équipe de Jérôme et lui, il va te mettre sur le banc.
Non, jamais. Je jouerai jamais sous les ordres de Jérôme.
Pourquoi
ça finirait mal. Non.
Mais c'est dingue, c'est en ce moment, il se passe des choses dans ces émissions là.
Le coup vit bien.
Est-ce que
mais bien sûr.
Pourquoi tu veux pas être entraîné par Jérôme?
Non, je m'en fous, mais non, je préfère être entraîné par Daniel.
Voilà.
D'accord. Parce que comme voilà, tu vois, je peux rester sur le terrain si j'en ai envie par exemple.
Ah non, cette année, je me laisse pas faire. Terminé.
Non, et ceci dit, on parle d'Anderlecht quand même pour Vincent, un entraîneur joueur à Anderlecht, c'est un des plus grands clubs belges.
Alors, il sort d'une très mauvaise saison.
Vraiment beaucoup de bordel.
Non, mais ils sortent ils sont 5e là dans les play-offs là.
Oui,
c'est un gros... non mais c'est un très grand club ça.
Ouais voilà, tu vois c'est quand même bizarre. Après enfin bientôt ils vont prendre un goal volant quoi. Enfin c'est
à l'ancienne.
C'est particulier quoi.
Un goal volant.
Ah je sais pas.
Tu sais que ça voulait rien dire ça.
Bah bien sûr parce que le gardien faisait ce qu'il voulait.
Bien sûr.
Non mais le truc c'est que moi
tu croyais que
déjà
c'était...
un petit... non, moi qui étais déjà un petit peu plus élaboré et tout quand les
je mettais des ailes.
Quand avec tes potes et tout, ils disaient goal volant, je dis mais vous êtes con quoi.
Mais le gardien il peut sortir si j'étais comme toi moi déjà. Voilà. Moi pareil, j'étais vous êtes débile dans les règles, on peut sortir.
Mais c'est ça, mais voilà.
Sauf que souviens-toi.
C'est bien là, je veux dire
sur les règles qu'on établissait
sur foot les gamins là.
Non mais sur les règles qu'on établissait à la cour de récré, quand les équipes étaient déséquilibrées, on disait votre gardien n'a pas le droit de sortir.
C'est vrai, aussi.
On disait ça de temps en temps.
Ah ouais, c'est vrai.
Et donc,
c'est vrai.
D'où le goal volant par la suite.
Oui,
on rappelle qu'à minuit, il y a le RMC Poker Show. Tiens, vite fait, Daniel, vous avez deux invités ce soir avec Moundia.
Ouais, Greg Serron-Maillard, qui est le team manager du team PMU. Donc, le team manager, c'est le mec qui est censé entraîner, c'est préparer les mecs et tout. Bah là, il s'est assis à la table, il a fait le tournoi et il a fait deuxième.
Putain, il est entraîneur
mal.
Compagnie. En plus, un WPT.
Compagnie, voilà.
Voilà, exactement. Bah, tu vois, voilà, belle transition. Et puis l'autre, c'est Ludovic Georges, qui est un magicien professionnel, fan de poker, et qui a sorti un...
Purée, c'est dangereux, c'est un magicien qui joue aux cartes, quoi, non?
Ouais, c'est pas con, ouais.
Alors, tu sais que l'un des plus grands, avec dans le top 3, là, comme on avait Negreanu et tout, l'un des top 3 de tous les temps, c'est, en tout cas en gain, c'est Antonio Esfandiere, qui était un ancien magicien.
Ah ouais.
Mais... les magiciens te disent oui moi si c'est moi qui donne les cartes au poker vous voyez rien je me donne les as mais normalement il y a un croupier donc ouais. Tu peux pas le faire et il a sorti un bouquin où il raconte plein de petites histoires de poker c'est assez drôle ouais on en parlera ce soir et puis, évidemment on va parler de Lloret Delmar où le Sismix organisé par Winamax démarre dès demain et où mercredi nous arrivons nous débarquons avec l'objectif d'aller très
merci Daniel c'est quand on est super labour à tout de suite pour la suite de l'after
labour on est jusqu'à minuit
oui mais
temporaire RMC L'After Foot.